Vous écoutez
RMC.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Je le disais, Christophe n'est pas avec nous, mais il a tenu à nous laisser son petit bonbon. Il y a 44 ans, les Bleus retrouvent les joies de la Coupe du Monde en Argentine.
Ceux de juin 1978, le Stade José Maria Minella a de forts accents italiens. Situé à 400 km au sud de Buenos Aires, Mar del Plata est considéré comme la capitale transalpine de l'Argentine, le fief des descendants d'immigrés du 19e siècle. Des Italo-Argentins venus en masse soutenir la Squadra Azzurra et sa jeune star, Paolo Rossi, dont les ambitions sont immenses dans ce Mondial 78 qui débute. Face à eux, de jeunes coquelets aux cheveux longs qui tous découvrent ce jour-là ce qu'est une Coupe du Monde. Et oui, car depuis 12 ans et un séjour pour le moins bref en Angleterre en 66, la France n'est plus jamais parvenue à se qualifier pour une phase finale, que ce soit de l'Euro ou de la Coupe du Monde. Alors, on ne donne pas cher des chances des Bleus qui, de leur côté, n'ont que faire des pronostics. En 2 ans, sous la houlette du nouveau sélectionneur Michel Hidalgo, ils ont redonné des couleurs au football français. Une aventure qui débute un jour de mars 76 face à la Tchécoslovaquie, où pour son premier match à la tête de la sélection, Hidalgo fait appel à un jeune garçon prometteur venu de Lorraine.
Parmi ces nouveaux, on attendra beaucoup ce soir de celui dont on parle le plus depuis des mois. Michel Platini, 20 ans, promis à un bel avenir et qui fera ses grands débuts en équipe nationale.
J'ai un peu d'appréhension, mais je pense que c'est tout à fait naturel, mais je crois que je vais m'en sortir.
Coup franc en deuxième mi-temps, Henri Michel, qui était le tireur d'élite de l'équipe de France, et le capitaine en même temps, il prend son élan, il arrive vers lui et dit « donne-moi le ballon, je marque ». Henri Michel le prend de haut et qu'est-ce que c'est que ce morveux là qui arrive, qui veut déjà... Et là, donne-moi le ballon, tu veux le ballon. Il lui donne.
Vous allez voir, le numéro 8 c'est Platini, le 6 c'est Michel, une petite passe. Et voilà, un but superbe, une belle confiance et un beau premier but pour ce jeune international que l'on reverra très certainement souvent avec le maillot frappé du coq.
Le premier coup de patte d'une longue série pour Platoche qui, 7 mois plus tard, récidive à Sofia, derrière le rideau de fer, où les Bleus viennent affronter les redoutables Bulgares lors du premier match de qualification pour le Mondial. Platini frappe le premier, bientôt rejoint par Lacombe qui inscrit le but du 2-0. Les Français sont euphoriques, mais ils déchantent vite lorsqu'en deuxième mi-temps, les Bulgares reviennent au score. Il ne reste alors qu'une poignée de minutes à jouer. Les deux équipes sont à égalité de partout lorsqu'un arbitre écossais, dénommé Monsieur Foot, ça ne s'invente pas, va jouer du sifflet et se prendre un retour gratiné de la part de Thierry Roland, à l'époque commentateur sur Antenne 2.
À la 88e minute, il y a un Bulgare qui se laisse tomber dans la surface et là, il donne pénalty.
C'est pas vrai. Oh, ah, c'est pas croyable qu'il accorde pénalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable, à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Il n'y a pas d'autre mot.
Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit qu'il fallait lui réserver d'urgence une cellule dans la prison fédérale d'Édimbourg.
À côté ! Eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi !
Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football.
Une phrase restée dans la légende. En attendant, les Bleus ramènent un point précieux de Sofia qu'ils entendent bien faire fructifier lors de leur double affrontement face à la République d'Irlande.
Bon Michel, à chaque fois que vous avez joué avec l'équipe de France, vous avez marqué un but, pratiquement un but sur coup franc à chaque fois.
Oui, c'est heureux et c'est malheureux parce que maintenant je suis un peu l'homme des coups francs. Et puis si je vais louper un contre l'Irlande, ben, je décevrai beaucoup de gens.
Giles, dépossédé du ballon pour Platini, peut-être le but. Oui. Une faute de Giles et un but réussi par Platini qui n'a pas laissé passer l'occasion.
L'arbitre demande le ballon et siffle la fin du match qui se termine donc par la victoire de l'équipe de France 2-0. 3 points donc pour l'équipe de France en tête de son groupe en Coupe du Monde. Pourvu que ça dure, tout va bien pour l'instant. La décision se fera l'année prochaine en 1977.
Et 77 sera du même tonneau. Après une première victoire face à ces mêmes Irlandais à Dublin, ils s'en vont à Rio affronter les magiciens brésiliens de Paulo César et Rivellino au Maracana. Didier Six faisait partie de la bande.
Dans ce stade, 140 000 spectateurs qui crient Francia, Francia. Nous qui étions tout gamins, quand on était la petite équipe de France qui essayait de remonter, ça a été impressionnant, c'était le début de quelque chose de grand.
Six, tire et à pleine course, Six sur cette passe de Platini réussit un but canon absolument magnifique en position d'avancante qui remet la marque à 2 buts à 1.
C'est pas un but de construction, c'est un but d'instinct.
Trésor sur ce corner, Trésor égalise à 11 minutes de la fin d'un coup de tête en pleine lucarne. Eh bien, magnifique capitaine, bravo Marius.
On réussit à faire une seconde mi-temps, on fait un 2 à 2. Tout ça nous met sur de bons rails pour l'avenir.
Et l'avenir en 77 se nomme à nouveau Bulgarie. Ce soir de novembre, c'est le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. Le vainqueur du jour partira en Argentine, son battu restera à quai. Le Parc des Princes est comble, les Bleus se découvrent de nouveaux et fervents supporters. Après s'être heurté durant plus d'une demi-heure au jeu fermé des Bulgares, Dominique Rocheteau, l'ange vert, délivre les Bleus.
Rocheteau marque à 7 minutes de la mi-temps le but qui va sans doute libérer l'équipe de France.
Puis c'est au tour de Platoche de régaler le parc.
Platini tire. Le deuxième but de Platini. Eh bien Michel, je te remercie au nom de tout le monde pour ce
merci
but
Michel, clame Thierry Roland. Les Bleus vont pourtant se faire une dernière frayeur lorsque les Bulgares réduisent l'écart, mais à quelques instants du coup de sifflet final, Christian Dalger libère l'écart.
Voilà. But d'Alger à la dernière minute de la partie. Alors,
la folie s'empare du parc, les Bulgares devront attendre 16 années supplémentaires avant de nous empêcher de franchir l'Atlantique. Quant à Michel Hidalgo, en pleurs et capuchon la tête, il est porté en triomphe par ses hommes. L'Argentine s'offre à l'équipe de France, c'est tout un pays qui rayonne.
Partout dans la presse ce matin, des louanges qui courent à longueur de première page. Pour l'Aurore par exemple, ils ont bien mérité l'Argentine. Pour le Figaro, l'équipe de France en Argentine par la grande porte. Pour l'équipe, la France en Coupe du Monde après 12 ans d'amère pénitence. Pour l'humanité, victoire méritée des tricolores. Pour le Parisien libéré, magnifique victoire hier soir. Pour le matin, une qualification sans contestation. Et pour France Soir, un 11 de France magnifique.
Est-ce qu'on peut dire qu'en 1977, il y a en France des nouveaux footballeurs comme il y a des nouveaux philosophes?
Je ne connais pas la valeur des nouveaux philosophes. Ce que je suis sûr, c'est de la valeur des nouveaux footballeurs.
Le sélectionneur qui a quelques jours du départ pour Buenos Aires va pourtant connaître une drôle de mésaventure.
Aussi là.
Toujours dans le domaine des faits divers, il y a l'incroyable tentative d'enlèvement contre l'entraîneur de l'équipe de France de football.
Mais on m'a demandé de descendre et de suivre quelqu'un qui me menaçait avec un pistolet. Il y avait ce revolver dans le dos et je pensais qu'il me restait que peu de temps à vivre. J'ai attrapé le canon du revolver et j'ai réussi à le reprendre. Il est tombé par terre, je l'ai repris avant lui et quand il a vu ça, il s'est sauvé.
Quelques instants après cette agression, vous avez été tellement surpris, abattu, que vous avez un moment songé à renoncer au voyage en Argentine.
Dans ce cas-là, on se demande où est le sport et je n'y voyais plus d'intérêt. Et cette grande joie du 16 novembre s'estompait, s'effaçait d'un seul coup et je me suis dit, c'est pas la peine d'aller en Argentine.
Dans un coup de téléphone anonyme, un correspondant a revendiqué cette agression effectuée selon lui pour attirer l'attention sur l'hypocrite complicité de la France qui fournit du matériel militaire à l'Argentine.
L'Argentine, qui en cette fin des années 70 vit sous la main de fer du sinistre général Videla. Sous son règne, ce sont près de 30 000 Argentins qui trouveront la mort pendant que des milliers d'autres subiront la torture dans les geôles du pays. Et à l'image de ce qui se produit aujourd'hui, l'opinion publique est vent debout contre cette Coupe du Monde au pays de la dictature. Même dans les rangs des Bleus, certains hésitent à se rendre à Buenos Aires.
C'est un cas de conscience personnelle. Il y avait un seul joueur, était en train de tâtonner, j'y vais pas, c'était Dominique Rocheteau.
Pourtant, comme les autres, la star stéphanoise décidera d'aller disputer cette Coupe du Monde, qui débute donc pour les Bleus le 2 juin 78 face à l'Italie. Ce jour-là, la France frappe à
première minute de jeu, Bernard Lacombe surgissait sur un centre de Six.
et parvenez à donner l'avantage à la France.
Malheureusement, la suite sera moins rose. Les Bleus s'inclinent 2 buts à 1. Pour espérer voir la suite de la compétition, il leur faut battre l'Argentine de Kempes. Mission impossible. Il en va de l'honneur de la dictature. Et malgré un match énorme, les Français sont vaincus par l'Albicéleste et l'arbitre suisse de la rencontre.
Il aurait pu siffler aussi, mais il n'a pas sifflé. C'est l'éternelle histoire de l'arbitre qui arbitre l'équipe locale dans une Coupe du Monde. Et ça, on ne peut pas y faire grand-chose.
L'Argentine gagne 2-1, alors que ce jour-là, si elle perd... Et l'Argentine aurait été éliminée, ce qui paraissait impossible. Quoi. C'était l'Argentine des généraux, quoi. On était en pleine dictature militaire. L'Argentine ne pouvait pas être éliminée au premier tour, c'était pas possible.
Les Bleus sont éliminés, mais avant de rentrer au pays, il leur reste un dernier match à disputer face aux Hongrois, pour l'honneur. Une rencontre que les Bleus ont bien failli perdre avant même de débuter, une histoire rocambolesque.
C'est une heure avant le match, quoi. Les types sortent des vestiaires en survêtements et il y a Hidalgo qui vient à côté de nous. Et je lui dis, Français, il joue en quelle couleur aujourd'hui? Et Hidalgo me répond, ah, mais il joue en blanc. Alors je lui réponds aussi sec, je lui dis, tiens, bah, ça va faire un match marrant, parce que les Hongrois aussi, ils sont en blanc. Oh, il me dit, mais oui, merde, t'as raison. Et il part comme une fusée, et c'est le début de l'aventure.
Les intendants des Bleus partent alors un dimanche après-midi dans Mar del Plata, en quête de maillots de substitution. Une demi-heure plus tard, ils reviennent au stade avec de drôles de tuniques.
Finalement, on tombe sur un jeu de maillots d'équipe de pêcheurs, qui étaient des maillots rayés verticalement vert et blanc. Pas très grand en plus, c'était pour des jeunes.
Jamais vu l'équipe de France aussi musclée. Les maillots, les serrés, on voyait les pecs de rond, on voyait tout.
Mais imaginez un petit peu la tribune de presse de la Mondiovision. Les mecs du monde entier qui étaient là pour commenter ce match. Et qui avaient des types, qui avaient un qui avait le 7 dans le dos et le 14 sur le short.
Et pendant ce temps-là, c'était la première fois que c'était retransmis par satellite, ça coûtait une fortune. Chaque seconde coûtait de l'argent.
Si la FIFA avait fait payer ce que ça a coûté en satellite, la fédération était ruinée. Hein.
Comme on avait les maillots du club, tout le stade était pour nous. C'était le club local. Et on a tellement fait un bon match, on a battu 3-1 la Hongrie, qu'on nous a enlevé l'amende qui devait mettre la fédération sur la paille.
Si la fédération, ce jour-là, l'a échappé belle, le football français ressortira, lui, grandi de cette aventure argentine. À Mar del Plata et à Buenos Aires, cette année-là, une équipe est née. Durant les 8 années qui suivront, elle ne fera que grandir, connaissant quelques cuisantes défaites, comme à Séville en 82, mais aussi des lendemains qui chantent et un premier trophée obtenu en 84 dans un parc des Princes devenu le Jardin des Bleus. C'est de cette époque que date la ferveur des supporters français pour leur équipe nationale, ce maillot bleu frappé du coq qui, 44 ans plus tard, continue aujourd'hui d'enchanter petits et grands.
Merci Christophe Cessieux qui n'était pas là aujourd'hui, il a dû déclarer forfait pour l'émission, mais il tenait à vous faire partager, vous les grandes gueules, chers auditeurs, ce début de l'aventure pour cette équipe de France, 78, il y a eu 82, il y a eu 90, 86, et puis évidemment 98, et puis on connaît l'histoire, on l'espère, pour 2022, une magnifique équipe de France.